Bonjour, Marco, compte à rebours. Chouette compte à rebours, des histoires de contes. Et aujourd'hui, deux contes assez longs, donc je ne traîne pas, deux contes berbères qu'on retrouve dans un livre de Amandi à la mémoire des sources aux éditions du Seuil, Récits des hommes libres. Deux histoires d'amour, si l'on peut dire. Et puis des belles musiques aussi, voilà. Donc c'est pour tout de suite. On commence par « Où il est question » de Zara l'Orgueilleuse. Et ensuite, ce sera le deuxième où l'on raconte l'histoire de deux frères, du bol de henné et de l'arbre qui meurt et retrouve la vie. On raconte... Et il n'est aucune parole qui ne se raconte, ni aucune histoire qui ne se récite, qu'autant jadis des eaux courantes, lorsque la rose et les coquelicots envahissaient toutes les vallées dans un pays du couchant, régnait un homme sage et avisé. Cet homme, après avoir sillonné monts et forêts, s'était installé en rase campagne. Il avait construit une tour si haute qu'elle blessait le ciel. Les hommes et les femmes de ce peuple, reconnaissant là la ténacité et la force des hommes libres, en firent leur roi. L'homme s'installa au sommet de sa tour et des années durant, il promena son regard sur les êtres et les choses en régnant équitablement sur tout et sur tous. Ce roi vieillit. Quand il fut proche de la fin de son voyage terrestre, il eut une fille. Mais quelle fille ! Jamais. Dans les terres du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, dans les cieux et dans les entrailles même de la terre, l'on ne vit fille plus belle, plus gracieuse, plus élégante, plus sage. Jamais femme ne fut plus habile dans le maniement des armes, elle rivalisait avec les plus braves et dans le maniement de l'esprit et du cœur des hommes. Ce pur joyau avait pour nom Zara. Or, peu de temps après sa naissance, quelques années tout au plus, les villages, les villes, les hommes, les animaux même de ce royaume entrèrent en ébullition, saisis tous par la folie d'amour pour la belle. Car belle, elle était Zara. Oh combien ! Belle comme la lune. Belle comme est beau le chant d'une mère, éclatante comme les premières neiges, gracieuse comme la perdrix, fragile comme la colombe et odorante comme le jasmin des belles années, belle à en perdre le souffle. Et Zara connaissait la juste mesure de son éclat et de l'attirance, ensorcelante, disaient certains, qu'elle exerçait sur tout être et sur toute chose. Par un jour de grand froid, elle décida de mettre la terre entière à l'épreuve de son amour. Elle se cloîtra dans une petite cabane de bois vieillie, isolée parmi les cailloux du Levant, et attendit. Tous les jeunes hommes en âge de prendre femme se retrouvèrent à sa porte. Certains venaient des confins du Sahara lointain, drapés de tissus lourds et montés sur des chamelles centenaires, pour avoir le privilège d'entendre sa voix s'ils ne pouvaient rencontrer son regard. Il faut vous dire, une fois encore, que Zahra parait les montagnes, les vallées, les cieux même de ses rires, qu'elle illuminait les nuits et les chemins de son regard droit et clair. Tous étaient donc là. Une joute fut décidée entre les prétendants pour déterminer lequel de ces jeunes audacieux mériterait d'entrer dans le cœur de Zahra et de partager sa couche. Ainsi, saison après saison, année après année, grands et petits, riches ou pauvres, beaux ou laids, les hommes se succédèrent au seuil de la cabane. Au premier qui frappa à la porte, « Qui est-ce ? » demanda la voix. « C'est moi, ton aimé. Laisse-moi ton nom et va-t'en. » Et l'homme s'en alla, pendant que la belle Zahra s'attelait à une tâche énorme, autant que vaine, tisser une couverture de laine et broder le nom de ses prétendants. Quand le deuxième vint, « Qui est-ce ? C'est moi, ton aimé. Laisse-moi ton nom et va-t'en. » Et l'homme s'en fut, tandis que Zahra brodait son nom d'une aiguille d'or sur la couverture de laine. Un troisième homme vint frapper à la porte, puis un autre et un autre encore. Le 99e homme, à son tour, vint. « Qui est-ce ? Est-ce moi, ton aimé ?» Un long silence accueillit ces paroles. Tous les prétendants semblaient pétrifiés dans l'attente d'une réponse qui, cette fois peut-être, serait différente. Tous prêtèrent l'oreille. « Laisse-moi ton nom et va-t'en. » Et le 99e homme s'en alla comme les autres, et le 1000e quitta les lieux, le désespoir plein les tripes, et le 3000e laissa éclater la folie qui l'envahit lorsqu'à son tour, il se vit repoussé. Cependant que Zahra brodait son nom sur la couverture de laine. Les jours succédèrent aux jours, les saisons chassèrent les saisons, la sécheresse laissa la place aux pluies diluviennes. Les années passèrent et Zahra, l'unique, vit sa beauté se flétrir au même rythme que s'allongeait l'infinie couverture de laine. Mokhtar était un homme simple, attiré seulement par la vie, dégoûté des hommes, de sa terre, de son ciel, de son eau, de sa poussière et de son air même. Il avait décidé de suivre les pas de ses rêves. Il entreprit le voyage qui l'amena au pays de Zahra. Intrigué par l'histoire devenue légende de cette femme que les hommes avaient fini par surnommer « la folle orgueilleuse », il décida de lui rendre visite. Il arriva devant la cabane de bois vieillie, déposa son baluchon, se rafraîchit le visage à l'eau claire d'un puits proche. Il vint, le cœur battant, frapper trois fois à la porte. « Qui est-ce ? » demanda la voix. « C'est toi, mon aimé, » répondit Mokhtar. La porte de bois, close depuis des dizaines d'années, lança un faible cri continu avant de s'écarter pour laisser le passage à une vieille femme. Petite et menue, fripée, ridée, tremblante, enfouie sous sa couverture de laine. Mokhtar fut ébloui par l'éclat d'une beauté qu'il était assurément le seul à voir. Il saisit la couverture, tira sur les fils d'or brodés. Et pendant 7 jours et 7 nuits, au fur et à mesure que les noms s'éteignaient sur la couverture, des oiseaux envahirent le ciel. Au bout de ce temps, 3000 oiseaux décrirent un cercle immobile dans les airs. Au premier battement de leurs ailes fines, et à mesure que l'horizon les avalait, les rides de Zara disparurent, laissant apparaître l'énergie de son regard et la délicatesse de son teint. C'est ainsi, raconte-t-on dans certaines contrées du sud lointain, que Zara l'orgueilleuse retrouva sa jeunesse et l'éclat de sa beauté. On raconte qu'il y a de cela bien longtemps, dans ce temps jadis que l'on appelait le temps de Dieu, advint ce qui suit. Une femme avait deux fils. Ils avaient les mêmes traits, le même regard. Ils étaient de même taille, ils avaient les mêmes vêtements. Aussi, la femme ne pouvait-elle reconnaître qui de l'un ou de l'autre était son préféré. Elle ne pouvait davantage reconnaître qui de l'autre ou de l'un la préférait. Comme elle s'inquiétait de cela, elle s'en fut trouver un devin. « Seigneur, j'ai deux enfants qui se ressemblent comme se ressemblent les deux yeux d'un même visage. Je voudrais savoir qui de l'un ou de l'autre mérite ma préférence. » Quand tu rentreras chez toi, prépare un plein bol de henné. Lorsque les garçons reviendront, ils te trouveront alitée et gémissante. Le premier qui, abandonnant cheval et lévrier, viendra à ton chevet, celui-là est ton fils préféré. L'autre, qui prendra soin de son lévrier et de son cheval avant de venir à toi, celui-là ne mérite pas ta préférence. Le lendemain, les deux frères partent à la chasse, montés chacun sur un pur sang blanc et suivis chacun d'un lévrier de chasse. Après leur départ, la femme prépare le henné. Au soir, lorsqu'elle entend arriver ses deux fils, elle se couche et se met à geindre. Les garçons l'entendent. Le premier abandonne le cheval et le lévrier et accourt au chevet de sa mère pour prendre de ses nouvelles. Le second prend soin de ses bêtes avant de venir auprès de sa mère. La femme trempe sa main dans le henné et tache l'habit du premier. Ainsi est désigné son garçon préféré. Le lendemain matin, elle se lève tôt pour préparer le petit déjeuner et les provisions que ses deux fils doivent emporter à la chasse. Au premier, elle offre de la viande de colombe et du pain blanc. Au second, de la viande de lapin et du pain noir. Les deux frères partent et chassent la matinée durant. À l'heure du repas, ils s'installent à l'ombre d'un arbre près d'une source où ils ont coutume de boire et de se reposer. Chacun sort du sac son repas. Le second, aussitôt gémit. « Vois, mon frère, ce que je vois. Notre mère ne nous aime plus également. Pour toi, les mets savoureux, pour moi, le repas des pauvres. » Son frère a beau le raisonner, lui expliquer qu'il s'agit certainement d'une méprise, que sa mère, sachant qu'il partageait tout, n'aura simplement pas prêté attention à ses actes, rien n'y fait. Le second frère décide de quitter le pays sur le champ. « Mon frère, tu es mon aîné, et je te prie de faire ceci pour moi, lorsque je serai loin. Tu viendras chaque matin sous cet arbre et près de cette source. Si un jour tu vois que les eaux sont taries et l'arbre desséché, alors sache que je serai mort ou en danger pressant. » Les deux frères se font leurs adieux. Le second prend la route. Il marche des jours et des jours. Il arrive épuisé dans un pays lointain. Le soleil est encore haut dans le ciel. Traversant cette terre, il s'étonne de ne voir aucun animal dans les prés, pas de troupeau, pas de berger. Au détour du chemin, il aperçoit un homme. « Dis-moi, cousin, pourquoi vos troupeaux ne sont-ils pas dans les prés ? C'est à cause du loup qui effraie le pays. » « Et que donneriez-vous à celui qui vous débarrassera de ce loup ? tous les chevreaux qui naîtront seront à lui. » Le jeune homme se met en chasse. Il se poste à la rivière et quand le loup vient boire, il le décapite d'un coup de sabre. Pourtant, aussitôt, il quitte la contrée et poursuit son chemin. Il marche, parvient dans un nouveau pays. Le soleil est déjà haut dans le ciel et point de troupeaux dans les prés. Il accoste un paysan. « Pourquoi donc vos bêtes ne sont-elles pas dans les prés ?»« Mon bon monsieur, un ours terrible épouvante les lieux et mange nos troupeaux. »« Et que donneriez-vous à celui qui vous débarrassera de cet ours ?»« Tous les veaux qui naîtront l'an prochain seront à lui. » Le jeune homme attend l'ours, le tue et aussitôt poursuit sa route. Sur les terres voisines, il interpelle un homme. « Dis-moi l'ami, pourquoi donc vos troupeaux ne sont-ils pas au pré ?»« Un lion, hélas !» En fait bombance. Et que donneriez-vous à celui qui vous débarrassera de ce lion ? Tous les agneaux qui naîtront l'an prochain seront à lui. Le jeune homme se poste où il faut, tue le lion et reprend sa route aussitôt. Dans le pays suivant, au bord d'une rivière, il trouve une jeune fille assise devant un grand plat de viande tendre et fumante. « Seigneur, je suis ici en offrande au monstre à sept têtes. Va-t'en, je t'en prie. » « Quand le monstre viendra-t-il ? » Quand les branches des arbres trembleront, quand une pluie fine et drue tombera, quand les éclairs s'éparpilleront dans le ciel, le monstre arrivera. Alors, quand il sera là,
réveille-moi. Pour l'instant, j'ai sommeil. Et il s'endormit.
Peu après, une pluie fine et drue commence à tomber. Les branches se mettent à craquer. Les éclairs s'éparpillent dans le ciel et des pas lourds retentissent sur la rive. La jeune fille veut le réveiller, veut crier, veut pleurer, mais aucun son ne sort de sa bouche. Le monstre à sept têtes est tout proche. Elle veut crier, elle veut pleurer. Une larme, enfin, roule, s'écrase sur la joue du jeune homme et le réveille. Preste comme un tigre, elle s'empare de son sabre, tranche les sept têtes d'un coup. Eh oui, c'était lui. Et poursuit fringant son voyage. Comme il galope, il chasse, mais n'atteint aucun gibier. Le soleil tombe derrière les collines. Il décide alors de revenir sur ses pas. Dans la nuit noire, il voit au loin une lumière. Il s'en approche en grande hâte, arrive au seuil d'une maison, frappe à la porte. Une ogresse apparaît. « Que veux-tu, mon fils ? Et que fais-tu dehors à cette heure de la nuit, loin de toute terre habitée ? Notre mère, au nom de Dieu et des hommes, je voudrais un peu de feu pour réchauffer mes os et un peu de pain pour réchauffer mon sang. Entre ! Sois le bienvenu. » Il entre, s'installe, réchauffe son sang et ses os. L'ogresse recule dans un coin sombre et prend deux seaux. Le premier, elle le remplit à ras-bord de viande fraîche, le second à ras-bord de grains. Puis elle asperge viande et grains du lait de ses mamelles. Étend les deux seaux au jeune homme. « Tiens, mon fils, de la viande pour ton lévrier de chasse et du grain pour ton pur sang. » Il donne à manger à ses bêtes, mais ne se sentant pas tranquille, il décide de s'en aller. Aussitôt, il monte en selle et s'éloigne au galop. Mais alors retentit la voix de Mère Ogresse. « Arrête-toi, mon lait !» Et voilà le cheval soudain pétrifié. Le jeune homme s'insurge et il ordonne au lévrier de déchirer l'ogresse. À nouveau, elle s'écrie « Arrête-toi, mon lait !» Et le lévrier s'arrête. L'ogresse se saisit du jeune homme et l'avale. Elle avale aussi son pur sang et son lévrier de chasse. Au pays de sa mère, chaque jour après la chasse, son frère vient à la source, s'assure qu'elle n'est point tarie, que l'arbre est encore vert. Ce jour-là, plus d'eau, plus une feuille sur les branches. Son frère est donc mourant, peut-être même mort. Il décide de partir à son secours. Il galope jusqu'à la première terre. Les gens accourent à lui. «
Bonjour cousin, voici 7 fois que les chevreaux naissent et que nous t'attendons. Ne veux-tu pas ton dû ?
Je n'ai pas oublié, je reviendrai plus tard.
Si ces gens pensent me connaître, se dit le jeune homme, c'est que mon frère est passé ici. Il poursuit sa route jusqu'au pays suivant. La foule accourt à sa rencontre.
Bonjour l'ami, voici 7 printemps que les veaux naissent et que nous t'attendons. Ne veux-tu pas ton dû ?
Je n'ai pas oublié, je reviendrai plus tard.
Il galope jusqu'au pays suivant. Là encore, les gens.
Bonjour cousin, voilà des saisons et des saisons que nous t'attendons. Ne veux-tu pas ton dû ?
Je n'ai pas oublié,
je reviendrai plus tard.
La foule accourt encore dès le pays prochain. La jeune fille que son frère a sauvée du monstre à 7 têtes le reconnaît.
Si cette princesse me connaît, c'est que mon frère est passé par ici. Il poursuit son voyage dans les campagnes lointaines. Le soleil tombe derrière lui. La nuit le surprend. Il se décide à faire demi-tour. Dans les ténèbres, il aperçoit au loin une lumière. Le voici devant une maison. Il frappe à la porte. L'ogresse vient au seuil. Que veux-tu, mon fils, à cette heure de la nuit, perdu, si loin de toute terre humaine ? Femme, au nom de Dieu et des hommes, je voudrais un peu de feu pour réchauffer mes os et du pain pour réchauffer mon sang. Quelle étrange coïncidence, mon fils. J'ai nourri un jeune homme, son pur sang et son lévrier, il y a de cela quelque temps, et il te ressemblait comme les 2 yeux d'un même visage. Entre. L'ogresse va dans un coin sombre, prend 2 seaux. Le premier est plein de viande fraîche, le second plein de grains. Elle asperge le tout du lait de ses mamelles. Mais le frère a tout vu. Tiens, mon fils, du grain pour ton pur sang et de la viande pour ton lévrier de chasse. Il prend les seaux, les dépose près de lui, sort de ses poches des lanières de cuir et saute au cou de l'ogresse en menaçant de l'étrangler. « Crache, mon frère, son pur sang et son lévrier de chasse !» Mais l'ogresse râle, dodeline de la tête. « Je te le rendrai, mais borgne, tel que tu l'as avalé, je le veux. Je te le rendrai manchot, tel que tu l'as avalé, je le veux. Je te le rendrai cul de jatte, tel que tu l'as avalé, je le veux. » Je te le rendrai sourd, tel que tu l'as avalé, je le veux. Je te le rendrai aveugle, tel que tu l'as avalé, je le veux. Je te le rendrai sans son pur sang, avec son pur sang. Je te le rendrai sans son lévrier de chasse, avec son lévrier. Et dans un rot tonitruant, l'ogresse crache le frère, son pur sang, son lévrier. L'aîné tue l'ogresse. Tous deux la découpent, plantent les morceaux de sa chair sur la cime des roseaux, les offrent aux vautours. Sur le chemin du retour, ils prennent leur dû. Un troupeau de chevreaux, un troupeau de veaux, un troupeau d'agneaux. Et la belle princesse, ils l'ont laissée chez elle. Ils sont rentrés auprès de leur mère. Riches et estimés de tous, ils vécurent heureux et leur bonheur dura ce que dure un clin d'œil de Dieu. C'était Contes à rebours, récit des hommes libres de Hammadi, donc des contes berbères. Et voilà, avec des musiques de Anouar Brahim et puis de Cheikh Habouch. C'était Marco. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.